La chasse au trésor. Lorsque vous méditez, essayez de considérer cela comme un processus d'exploration. N'ayez pas trop de notions préconçues à propos de ce que vous allez découvrir. Si vous abordez la méditation en pensant que vous allez reprogrammer votre esprit, eh bien, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'il voie presque n'importe quoi. Si vous croyez avec suffisamment de conviction que si vous voyez des nuages iridescents tout autour de vous, cela serait un bon signe, vous pouvez vous convaincre de voir des nuages iridescents. Si vous croyez avec suffisamment de conviction que si vous voyez le monde tout entier en bleu, vous pourriez trouver le bonheur véritable, alors vous pouvez vous convaincre de voir le monde tout entier en bleu. Mais cela ne constitue en rien une indication que le monde est vraiment bleu. Donc, à la place, on vous demande d'explorer. Le Bouddha ne donne pas beaucoup de descriptions du but, bien qu'il fournisse cependant quelques indices, mais il donne beaucoup de détails sur la manière de le trouver. C'est comme une chasse au trésor. Il dit que si vous allez dans la pièce suivante et que vous regardez dans une direction particulière, vous allez découvrir un objet de valeur. Et il vous fournit plusieurs tests pour déterminer si l'objet que vous avez trouvé est cet objet de valeur ou non. Est-il sujet au changement? Y a-t-il un stress quelconque? Y a-t-il un quelconque sens de possession? S'il y en a un, ce n'est pas ce que vous recherchez. Mais en ce qui concerne précisément ce que vous recherchez, il fournit seulement quelques indices. Donc, ce sur quoi nous devrions nous focaliser, c'est le processus de ce que nous sommes en train de faire. Repensez à son éveil. Trois types de connaissances ont précédé sa réalisation du Nibbana. La connaissance des vies antérieures, la connaissance que les êtres meurent et renaissent en accord avec leur karma, et ensuite la connaissance des quatre nobles vérités. Les deux premiers types de connaissances n'étaient pas quelque chose de tout à fait certain. Il y avait encore un élément de doute possible. Des visions de vies précédentes ne signifient pas nécessairement que vous avez vraiment eu des vies précédentes. Vous pouvez voir des gens mourir et renaître en accord avec leur karma, mais cela signifie-t-il que cela se produit vraiment? Vous pouvez voir toutes sortes de choses, mais cela ne signifie pas qu'elles sont vraies. Le Bouddha s'est rendu compte que la manière de tester ses visions consistait à tester cette question du karma, ce que les gens font dans le moment présent. C'est une chose que vous pouvez connaître directement. Vous pouvez connaître directement ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous focalisez l'esprit, vous savez que vous focalisez l'esprit. Lorsque l'esprit s'établit, vous savez qu'il s'établit. Lorsque l'esprit s'écarte, vous savez qu'il s'écarte. Ce sont des choses que vous connaissez vraiment ici et maintenant. Lorsque vous faites l'expérience de la souffrance, vous le savez. Lorsque vous faites l'expérience d'une absence de souffrance, vous le savez. Donc, ce sont les deux questions sur lesquelles le Bouddha s'est focalisé, les sensations de souffrance et la connaissance des actions. La deuxième connaissance suggérait qu'il y avait un lien entre les deux, et donc le Bouddha a décidé de voir si c'était vrai. Ces deux choses-là sont des choses absolument certaines. Lorsque vous souffrez, personne ne peut vous dire de façon convaincante « ce n'est pas vraiment de la souffrance, vous ne souffrez pas ». Les autres choses que vous pouvez connaître peuvent être façonnées par les règles des langues que vous avez apprises, mais votre expérience de la souffrance est pré-linguistique. Vous le savez de manière plus directe que toute autre chose. En même temps, lorsque vous faites quelque chose, vous savez que vous êtes en train de le faire. Donc, le Bouddha voulait voir si les expériences de plaisir et de douleur des gens sont liées à leurs actions. Pour trouver la réponse, il a examiné le présent immédiat. Qu'es-tu en train de faire en ce moment même? S'est-il demandé à lui-même. Y a-t-il un lien quelconque entre ce que tu es en train de faire maintenant et une expérience douloureuse ou d'absence de douleur? La question suivante, lorsqu'il a vu qu'il y avait un lien, a été « est-il possible de ne rien faire? Que se passe-t-il alors? Donc, il a travaillé afin de lâcher prise du désir ardent et de l'ignorance qui conduisent à l'action, qui sont impliqués dans l'action, pour voir ce qui se passe alors. De cette manière, il traitait les réalités qui sont immédiatement apparentes, immédiatement présentes. Il conduisait une expérience afin de voir que se passe-t-il lorsque vous le faites de cette manière-ci, que se passe-t-il lorsque vous le faites de cette manière-là. Il ne s'occupait pas de vision, il ne s'occupait pas d'abstraction mystique. Il examinait des choses très ordinaires, les actions de l'esprit, et voyait ce qui en résultait. Nous essayons de faire la même chose lorsque nous méditons ici. C'est là-dessus que nous devrions nous focaliser. Nous ne restons pas simplement assis ici à attendre que l'éveil nous tombe dessus du ciel. Nous recherchons un éveil par rapport à ce que nous faisons vraiment en ce moment même. C'est étonnant comme l'esprit peut se dissimuler cela lui-même. C'est une tendance que nous avons depuis que nous sommes petits, nous cacher nos intentions. Parce que parfois, nos intentions ne sont pas aussi sociables que ça, pas si admirables que ça. Nous pouvons trouver des manières de justifier presque n'importe quoi vis-à-vis de nous-mêmes, et au cours du processus, nous apprenons comment être un peu malhonnête, parfois pas seulement un petit peu, parfois outrageusement malhonnête, avec nous-mêmes. Donc, lorsque nous méditons, nous voulons rassembler suffisamment d'honnêteté et la focaliser sur ce problème ici même. Soyons vraiment honnêtes à propos de ce qui se passe en ce moment même. Nous appliquons notre honnêteté. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes par nature soit honnêtes, soit malhonnêtes, mais simplement que nous avons développé ces deux schémas. Et nous essayons de profiter de nos habitudes habiles pour déraciner celles qui sont malhabiles. Comment devient-on honnête et clair à propos de ses intentions? Vous devez rendre l'esprit vraiment calme. C'est la raison pour laquelle nous nous focalisons sur la respiration. Nous donnons une intention à l'esprit. Reste avec la respiration. Ne bouge pas. Ne t'égare pas à la poursuite d'autre chose. Et nous lui donnons une intention supplémentaire. Essaie de respirer de façon aussi confortable que possible. Ceci, ici même, est un exercice immédiat qui concerne la relation entre vos actions et les sensations de plaisir et de douleur. Vous voulez développer autant que possible cette sensibilité particulière. Ce qui est important, c'est la combinaison particulière du calme de votre focalisation et du point où vous êtes focalisé, exactement sur cette question de l'intention et de sa relation avec le plaisir et la douleur. C'est la raison pour laquelle la méditation sur la respiration ouvre les choses dans l'esprit, car elle se focalise sur les vraies questions. Le Bouddha a dit un jour que la vision pénétrante est la connaissance des sankharas, des fabrications, et que les fabrications se présentent sous trois formes. Les fabrications physiques, c'est la respiration, les fabrications verbales, la pensée dirigée et l'évaluation qui donne naissance aux mots, et ensuite les fabrications mentales, vos sensations et vos perceptions. Lorsque vous êtes focalisé de façon adéquate sur la respiration, toutes ces choses sont rassemblées. Il y a la fabrication physique de la respiration, il y a la pensée dirigée et l'évaluation dirigée vers la respiration, et il y a les perceptions de la respiration et les sensations qui proviennent de la façon dont vous gérez la respiration. Tout ce que vous avez vraiment besoin de connaître pour l'éveil se trouve ici même. Et qu'est-ce que le processus de la fabrication? Il y a beaucoup d'intentions impliquées dans ce processus, et c'est ce sur quoi vous voulez vous focaliser, parce que l'intention se trouve à l'essence de l'action. Le génie du Bouddha a été de se rendre compte que les choses dont nous avons besoin pour l'éveil, les choses dont nous avons besoin pour comprendre le problème de la souffrance dans nos vies, toutes ces choses se trouvent ici même. Il s'agit simplement de les rassembler et de leur donner un aspect vraiment stable, de façon à ce que vous puissiez voir clairement ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il lorsque vous focalisez vraiment votre attention ici même et que vous ne vous laissez pas distraire? Que se passe-t-il lorsque vous développez votre sensibilité dans ce domaine? Que trouvez-vous? Ajahn Mahabhoa parle de la période où il était avec Ajahn Mun en disant qu'Ajahn Mun avait l'habitude de donner de longs enseignements sur le Dhamma, décrivant les grandes lignes de l'ensemble de la voie de la pratique, parce qu'à n'importe quel moment, il y avait souvent beaucoup de personnes très différentes qui venaient étudier auprès de lui, et que chacune d'entre elles était à une étape différente de la pratique. Afin de pouvoir s'adresser à tout le monde, il avait l'habitude de commencer avec les niveaux les plus simples de la pratique et d'aller jusqu'au plus élevé. Et Ajahn Mahabhoa avait remarqué que lorsque Ajahn Mun donnait ses enseignements sur le Dhamma, il abordait certaines parties vraiment cruciales de la pratique, des découvertes vraiment importantes qui vous faisaient passer d'un niveau à un autre, et qu'il ne les décrivait pas en détail. Il passait simplement au niveau suivant. Il présentait le problème et ensuite il le contournait. Cela avait mystifié Ajahn Mahabhoa pendant un certain temps. Ensuite, il commença à se rendre compte que si vous expliquiez tout, avec beaucoup de détails à l'avance, les gens arrivaient à ces points cruciaux avec beaucoup de notions préconçues. Ces notions se mettaient en travers du chemin. Donc, la chose importante lorsqu'on écoute le Dhamma est que le Dhamma vous indique la direction. En fait, le mot « desana », le mot qui est utilisé pour une explication au sujet du Dhamma, signifie littéralement « indiquer la direction ». Il indique les endroits que vous devriez examiner. Il vous donne des instructions sur la manière d'examiner. Et ensuite, c'est à vous de voir. Lorsque le Bouddha donnait des instructions pour des méditants, il ne disait pas « allez et pratiquez la vision pénétrante ». Il disait « allez et pratiquez les jhanas ». En pratiquant les jhanas, vous auriez également à développer la tranquillité et la vision pénétrante. La vision pénétrante deviendrait vôtre parce que c'était quelque chose que vous aviez découvert. Vous remarquiez des choses que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Que pensez-vous que l'éveil puisse être d'autre? Ce n'est pas comme si les cieux s'ouvraient et qu'un dieu descende en portant un message, ou qu'un rayon de lumière descende de l'extérieur. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez cloner à partir de ce que vous avez entendu au sujet de l'éveil d'autres personnes. Il s'agit simplement de regarder très attentivement ce qui est déjà ici. Regardez pour voir ce qui se passe lorsque votre focalisation est vraiment bien au point, lorsque vous en faites quelque chose de stable. Vous développez toutes les habiletés dont vous avez besoin pour voir clairement, apprenant comment regarder, apprenant où regarder. Mais la vision véritable, lorsqu'elle devient vision claire, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vouloir. C'est le fait de regarder qui vous indiquera la direction. Si vous continuez à regarder, vous verrez. Donc, regardez avec attention. Il y a beaucoup de choses auxquelles s'éveiller ici. Beaucoup de choses à comprendre, à explorer, à découvrir. Cela dépend simplement de nous, de vouloir les découvrir avec suffisamment de force et de nous appliquer à faire ce qui doit être fait.